Bien, bonsoir à tous. Alors donc, pour ce cours de Nouveau Testament niveau 3, nous continuons avec le livre de l'Apocalypse de Saint Jean le théologien. La fois précédente, nous avions commencé à examiner le contenu des lettres donc aux églises, aux sept églises d'Asie. Et nous avions vu donc la lettre à l'église d'Éphèse, celle à l'église de Smyrne et celle à l'église de Pergame. Donc la quatrième lettre est adressée à l'église de Thyatire. Et il y a un certain nombre de reproches qui sont faits à cette église. Bon, d'abord là, à l'église de Thyatire, il est dit « À l'ange de l'église de Thyatire écrit, ainsi parle le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds pareils à de l'airain précieux. » Donc ce sont des notations qui nous renvoient à la notion de jugement, ça. Je ne vais pas revenir sur le fait que sur l'organisation interne de chacune des lettres qui fonctionne de la même façon. Mais il est dit là, « Je connais ta conduite, ton amour, ta foi, ton dévouement, ta constance. Tes œuvres vont sans cesse en se multipliant. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse. Elle égare mes serviteurs, les incitant à se prostituer en mangeant des viandes immolées aux idoles. » Alors, malgré la foi de cette Église et son dévouement, comme celle de Pergame, l'Église de Thyatire est dans la compromission, puisque elle tolère. Nous avions vu, par exemple, qu'à Pergame, on n'avait pas retranché les faux enseignements, les enseignements des Nicolaïtes, donc on avait toléré leur présence, et bien là c'est la même chose. On tolère au sein de cette Église les enseignements de la prophétesse, enfin la pseudo-prophétesse nommée Jézabel, prophétesse des Nicolaïtes, qui devait avoir un enseignement de type docète, gnostique, et qui est accusé de conduire ceux qui la suivent à la prostitution. Un thème à double entente, hein, qui renvoie à l'infidélité, à la foi reçue des apôtres. Et pourquoi ? Parce que cette infidélité est signe d'idolâtrie. Et donc l'idolâtrie est vue comme une prostitution. Ce qui est visé ici, c'est l'incapacité de cette Église à retrancher de son sein de graves déviances qui sont mortelles pour les Églises. Alors, la référence à Jézabel, bon, c'est une référence qui renvoie à une histoire que nous trouvons dans le livre des Nombres dans l'Ancien Testament. Donc Jézabel, qui est l'épouse phénicienne du roi Achab, roi d'Israël. Cette Jézabel, épouse du roi Achab, elle est restée fidèle, bien qu'épouse du roi d'Israël, elle est restée fidèle au culte des Baals. Vous savez que le culte des Baals, c'est une abomination. C'est-à-dire que les Baals, dans ce culte, on pratique des sacrifices humains et on se livre à toutes sortes de débauches. Donc en plus, Jézabel, c'est elle qui a organisé le meurtre de la vigne de Naboth, du propriétaire de la vigne de Naboth, qui était convoité par le roi Akab. Vous trouvez le récit dans 1 Roi 19, 1-3 et 21, 5-16. Et on sait que le saint prophète Élie fut son adversaire des plus déterminés. Donc là, cette Jézabel, eh bien, elle enseigne de fausses doctrines. Cette prophétesse des Nicolaïtes, elle enseigne de fausses doctrines. Et elle incite les serviteurs de Dieu à la prostitution en mangeant des viandes immolées aux idoles, c'est-à-dire en se livrant à un culte païen. Donc, en étant dans l'infidélité et dans l'idolâtrie. Et cette Église, évidemment, n'a pas la capacité, n'a pas la ressource en son sein pour retrancher ces graves déviances, et de ce fait, elle court un grand risque. Néanmoins, il y a des gens qui sont fidèles, il y a des serviteurs fidèles dans cette Église, parce que le Seigneur le dit, je vous les déclare, que je ne vous impose pas d'autre fardeau, celui donc de la fidélité, du moins ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à mon retour. Le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. C'est avec un sceptre de fer qu'il les mènera comme on fracasse des vases d'argile. C'est-à-dire que le vainqueur sera associé à la royauté du Christ, ni plus ni moins. La cinquième lettre, c'est la lettre à l'église de Sardes. À l'ange de l'église de Sardes, écrit, ainsi parle celui qui possède les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Les sept esprits de Dieu, l'esprit septiforme, c'est la plénitude, l'esprit dans sa plénitude, dans ses sept dons. Alors, cette église de Sardes est dans une situation tragique. En elle, finalement, il n'y a plus la vie en Christ. Et il est dit, je connais ta conduite, tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Il n'y a plus de vie en Christ dans cette église, de sorte que le Christ se présente à elle comme juge. Et bien sûr, l'esprit septiforme, les sept esprits dont il est parlé au premier chapitre, nous l'avions vu dans le premier cours, eh bien, renvoie au ministère de jugement de l'Esprit Saint dans la grande tribulation. Pourquoi ? Parce qu'il est là comme l'exécuteur des ordres qui émanent du trône du jugement. Donc, il y a un appel, parce que le Christ est amour, il veut sauver tous. Et il y a un appel pressant au repentir. Allons, rappelle-toi comment tu as accueilli la parole. Garde-la et repens-toi. car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je te surprendrai. » La sixième lettre est adressée à l'église de Philadelphie. Là, la situation est assez différente, même très différente, de celle de l'église de Sardes. L'église de Philadelphie, elle est constante et elle est persévérante dans sa foi. Et pour cette raison, elle sera gardée à l'heure de l'épreuve qui ne manquera pas d'advenir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et disposant pourtant de peu de puissance, tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. Ils usurpent la qualité de juifs, les menteurs. Oui, je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds, à reconnaître que je t'ai aimé. Puisque tu as gardé ma consigne de constance, à mon tour je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc cette église de Philadelphie, elle est fidèle. Elle obéit à la parole du Christ. Elle est fidèle à la personne du Christ. Elle fait l'expérience, bien qu'elle soit faible aux yeux du monde, elle fait l'expérience de la puissance du Christ dans les épreuves. Pourquoi ? Parce qu'elle se garde du monde. La septième lettre est adressée à l'église de Laodicée. Et là, il y a un gros problème, évidemment, puisqu'il est dit « Je connais ta conduite, tu n'es ni froid ni chaud. Que n'es-tu l'un ou l'autre ? Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. » T'imagines, me voilà riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne vois donc pas, c'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. L'église de Laodicée est donc tiède dans la foi. Et il lui est dit, je te vomirai de ma bouche. Pourquoi ? Parce que la ferveur des chrétiens de Laodicée, elle se refroidit. C'est une église qui place son espérance dans sa propre justice, qui se croit riche de beaucoup de biens, alors qu'elle est fermée sur elle-même, elle n'est plus ouverte à la parole du Christ, elle n'accueille plus la personne du Christ. Mais elle est autosuffisante, elle se plaît à elle-même, et sa foi, c'est déliquescent tout ça, en quelque sorte. Donc elle est ouverte à toutes les compromissions possibles, puisque sa foi est devenue tiède. Aussi, bien sûr, la parole qui lui est adressée est dure, elle est sévèrement tensée, cette église de Laodicée, parce que le Christ veut la faire revenir à lui. Et il l'appelle au repentir. Ceci nous indique que, malgré la situation très grave de cette église, eh bien, le Christ laisse toujours la porte ouverte de la grâce, pour peu que nous voulions la franchir. Alors, sous quel attribut le Christ s'adresse-t-il aux sept églises et quelles sont les promesses qui sont adressées à chacune d'entre elles. C'est important ça, de voir cet aspect des choses parce que les lettres sont toutes constituées selon un même schéma. Voyons quels sont les attributs du Christ pour chacune de ces églises auxquelles il s'adresse. À Éphèse, celui qui tient les sept étoiles en sa droite et qui marche au milieu des sept candélabres d'or. Les sept candélabres, ce sont les sept symboles des églises et donc ça signifie que les églises sont dans la main du Christ. Et il dit, au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. Dans un texte intertestamentaire qui s'appelle le Testament de Lévi, je l'avais déjà dit lors du cours dernier, mais je le rappelle aujourd'hui, les éditions de la Pléiade ont rassemblé ces textes intertestamentaires. Ça porte le titre d'ailleurs, le texte intertestamentaire de la Bible. Et vous trouverez dans ce fort volume le Testament de Lévi au chapitre 18, versets 10 à 11. Il est dit « Le Messie, grand prêtre, ouvrira les portes du paradis et il donnera aux saints de manger de l'arbre de vie. » Et donc, ici, c'est bien le Christ qui réalise cette promesse messianique pour celui qui a la victoire en lui. Comment s'adresse-t-il à l'église de Smyrne ? Le premier et le dernier, celui qui fut mort et qui a repris vie, celui qui est de toute éternité. Et donc celui qui daigna pour le salut des hommes, s'anéantir dans son sacrifice d'amour et remporter la victoire sur la mort par sa glorieuse résurrection. Qu'est-il promis, donc, par celui qui est le premier et le dernier, qu'est-il promis au vainqueur dans cette lettre à l'église de Smyrne ? Le vainqueur ne souffrira nullement de la seconde mort. Ça, c'est un terme important. Qu'est-ce que c'est que cette seconde mort ? C'est la mort ultime, définitive, par opposition à la première qui n'est qu'une séparation provisoire de l'âme et du corps, la mort biologique. Et entre les deux morts, c'est véritablement la seconde qu'il faut redouter. Parce que celle-là, c'est la mort définitive. Et il est dit d'ailleurs dans l'Évangile, c'est le Christ qui le dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, craignez plutôt ceux qui tuent l'âme. » À l'église de Pergame, il s'adresse, selon ces termes, celui qui a le glaive acéré à deux tranchants. Donc c'est ce glaive acéré à deux tranchants, c'est une image symbolique très forte. C'est le glaive de la parole de vie, c'est le glaive du jugement, c'est le glaive qui opère la séparation du bon grain et de l'ivraie. On peut trouver nombre de significations. Et celui qui tient ce glaive, c'est le maître du jugement, c'est le Christ. Et ce maître du jugement, à celui qui aura persévéré, il dit « Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou ou une pierre, petite pierre blanche, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. » Alors évidemment, hein, c'est cette parole-là, elle a donné lieu à de nombreux commentaires, parce que elle est tout de même quelque peu énigmatique. Mais la manne cachée, qu'est-ce que c'est que cette manne cachée ? C'est la nourriture des temps messianiques, en fait. Hein, c'est donc la manne qui est cachée par Jérémie avec l'arche, et c'est donc la nourriture du royaume céleste. Et le nom au-dessus de tout nom, qui est gravé sur ce caillou blanc, eh bien, il n'est pas identifié comme tel, mais c'est le nom du Christ, et le fait de recevoir ce nom, ça indique que on est invité à participer à la dignité de celui qui porte ce nom. Alors évidemment, la manne cachée avec le sacrifice d'amour du Christ, eh bien, ça nous renvoie aussi à la Sainte Eucharistie, c'est-à-dire que cette nourriture céleste, ce pain de vie, comme le dit le Saint Jean dans son évangile au chapitre 6, ce pain de vie que nous recevons, c'est dans l'aujourd'hui de ce monde, c'est déjà cette manne céleste, cette nourriture d'immortalité que nous recevons dans la foi en celui qui se donne en nourriture aux fidèles, comme il est dit dans nos textes liturgiques. À l'église de Thyatire, il s'adresse, là aussi, avec l'aspect du jugement, celui dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds semblables à du bronze précieux. Là, c'est le Christ juge, parce que le regard même du Christ met à nu les hommes. Rien ne lui est caché. Et les pieds d'airain ardent, de bronze ardent, eh bien, dans l'Écriture, ils sont liés à la thématique du jugement, dans le livre des Nombres notamment, 21-4-9, et en Jean 3-14-16. Et à ceux qui, dans l'église de Thyatire, seront restés fidèles, la promesse, donc aux vainqueurs, est faite de participer au pouvoir du Christ sur les nations. De même que moi aussi, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Donc là, très clairement, le Christ associe le vainqueur à son pouvoir royal. Et évidemment, l'étoile du matin, ça désigne le Christ. L'étoile du matin qui doit se lever dans vos cœurs, l'expression est dans la deuxième épître de Pierre, au premier chapitre, verset 19. Et il faut noter que dans le livre des Nombres, au chapitre 24, eh bien, l'étoile du matin, c'est un symbole messianique. Alors, comment s'adresse-t-il à l'église de Sardes ? Il dit, ainsi parle celui qui possède les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Les sept esprits de Dieu, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'esprit septiforme, c'est l'esprit dans la plénitude de ses dons. Les sept étoiles, ce sont les sept anges des sept églises. Donc là, nous avons évoqué cet aspect tout à l'heure. Et qu'est-ce qui est promis à celui qui persévère malgré l'état lamentable de l'église de Sardes? Celui qui persévère en son sein, eh bien, il est au bénéfice d'une belle promesse. À Sardes, néanmoins, quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements, ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et son nom je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Donc les vêtements blancs, l'inscription au livre de vie, le témoignage du Christ en faveur du serviteur fidèle devant le Père Céleste. Là, il y a toute la thématique du vêtement qui apparaît. D'ailleurs, je chercherai dans un de mes cours à faire un excursus sur la symbolique du vêtement dans la Bible, parce que c'est quelque chose de très important. Donc, le vêtement souillé, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le symbole de l'indignité, le symbole de la transgression de l'alliance, le symbole du péché, de la souillure du péché. Au contraire, celui qui reçoit le vêtement blanc, c'est celui qui est purifié. Et qui, parce qu'il est purifié, celui qui a le cœur purifié, eh bien, il peut participer à la vie du Christ. Et le livre de vie, c'est le livre céleste dans lequel sont consignés les noms des élus. On retrouve d'ailleurs cette thématique dans le livre de l'Exode, chapitre 32, en Daniel, chapitre 12, et en Philippiens 4. Le témoignage du Christ, d'ailleurs, est corroboré par le verset qui en parle, parce qu'au sens littéral, ce verset signifie « je confesserai son nom ». Celui qui est fidèle jusqu'au bout, il recevra le vêtement blanc, fidèle jusqu'au bout, c'est-à-dire qui aura purifié son cœur, qui aura vécu dans la confiance en Dieu, enraciné fermement dans la foi en Jésus-Christ, accomplissant ses commandements, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ confessera son nom devant son Père, est-il dit. Et depuis les tuniques de peau de la jeunesse jusqu'au vêtement blanc de l'Apocalypse, eh bien, on peut dire que le vêtement renvoie à la situation spirituelle de l'humanité et des hommes qui composent cette humanité. Selon qu'ils sont vêtus, il y a une correspondance avec leur état spirituel intérieur. Et quand l'homme, par le péché, eh bien, se détourne de la source divine, eh bien, c'est comme si il rejetait le vêtement de la gloire de Dieu et qu'il se voue à la nudité de la créature. Relisez le livre de la Genèse, c'est bien de ça dont il s'agit. Et il se part de dépouilles fallacieuses, tout simplement. Ce thème des tuniques de peau, d'ailleurs, a été magnifiquement développé par Saint Grégoire de Nice. L'église de Philadelphie, eh bien, le Seigneur s'adresse à elle en disant « Voici ce que dit le Saint, le véritable qui a la clé de David, qui ferme et nul ne peut ouvrir. » Et là, par rapport à toutes les autres titres, hein, j'avais expliqué la correspondance entre les titres christologiques que l'on trouve en tête de chacune des lettres adressées à cette Église, avec ces mêmes titres que l'on retrouve dans la vision inaugurale, eh bien là, il y a une particularité, c'est-à-dire que contrairement à ce qui est usuel dans les six autres lettres, le titre Alethinos, le véritable, que l'on retrouve en 3.14 à l'église de Laodicée aussi, mais aussi en Jean 1.9, lumière véritable, en 15.1, vigne véritable, pain véritable, 6.32, son jugement est véritable, 8.16, donc on ne retrouvait pas dans la vision inaugurale ce titre-là. Mais quoi qu'il en soit, donc il a une signification messianique très importante, puisque ce véritable, il détient la clé de David. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, détenir la clé de la ville ? Eh bien, ça fait allusion à la souveraineté du Christ, puisque la clé est symbole de pouvoir. Donc ça fait allusion à la souveraineté du Christ. Il se présente donc dans sa souveraineté. Bon, de plus, il faut se rappeler que à la fois dans les évangiles et dans Apocalypse 5, le Christ est rattaché à la lignée davidique. Alors le vainqueur là, il est dit de lui, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vainqueur, il occupera une place de choix dans le temple, mais là, il ne s'agit plus du temple fait de main d'homme. Il s'agit du temple non fait de main d'homme, qui est le Christ, le temple nouveau. Ça nous renvoie à toute une thématique symbolique que l'on trouve aussi dans l'Ancien Testament. On parle d'Abraham, qui est colonne du monde, aussi dans les intertestamentaires, on parle de ça. Abraham, colonne du monde. Dans la Nouvelle Alliance, les apôtres sont qualifiés de colonne de l'Église. Et évidemment, le nom de Dieu écrit est marque d'appartenance. Oui, marque d'appartenance. Le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus jamais, et je graverai sur lui le nom de mon Dieu. Donc ça, c'est une marque d'appartenance. Et de ce fait, celui qui est marqué, celui qui appartient à Dieu, eh bien, il est dit, et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de chez mon Dieu, est le nom nouveau que je porte. Donc il est fait citoyen de la Jérusalem nouvelle, de la Jérusalem céleste, et il portera sur lui, comme une marque, le nom nouveau. Enfin, à l'église de Laodicée, le Christ s'adresse à elle en disant « Le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Arché, principe, c'est un titre christologique dans l'Apocalypse. Et il dit d'ailleurs de lui-même, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Saint Paul dira aussi dans l'Épître aux Colossiens au premier chapitre qu'il est, en parlant du Christ, l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. Tout est créé par lui et pour lui. Et point n'est besoin de revenir sur le prologue de l'Évangile de Saint Jean qui véhicule les mêmes affirmations. Et la promesse qui est faite au vainqueur dans cette église de Laodicée, qui pourtant est tiède, qui a perdu sa foi, qui fermée sur elle-même, qui se croit autosuffisante, qui n'a plus ce lien vivant avec le Christ, malgré tout, ceux qui, dans cette église, restent des serviteurs, eh bien, s'ils persévèrent jusqu'au bout, ils recevront la grâce de siéger avec le Christ sur son trône. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Alors, il faut dire quelque chose aussi, c'est que dans le verset 21, donc du chapitre 3, hein, le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Bon. Tout ça, c'est une promesse eschatologique, mais pas seulement. Elle a un sens aussi pour le temps présent de la vie chrétienne de chaque génération. Son accomplissement définitif est d'ordre eschatologique, mais pour autant, ça a un sens dans l'aujourd'hui de la vie chrétienne. Donc ces églises, si on fait un peu le point sur ces sept lettres, qui concernent le temps présent, hein, vous avez vu que la vision inaugurale, donc l'apôtre Jean était transporté déjà devant la gloire du Christ, ensuite on est dans le temps présent, ces lettres sont adressés à l'ange de chacune des églises, et ça concerne le temps présent. Et ensuite, on va passer au chapitre 4 et 5 à un autre aspect, c'est-à-dire que on va passer à un ensemble à plusieurs visions, ou plutôt une seule vision, mais qui va s'élargir progressivement, et qui va nous introduire à l'ouverture des sept sceaux. Nous y viendrons ultérieurement, bien sûr. Mais nous avons vu que une des grandes caractéristiques de ces lettres, c'est à la fois le fait que le Christ met chacune de ses églises devant ses responsabilités, sans aucun détour, que nous remarquons que si ces églises sont infidèles à leur mission, alors bon, ben, elles sont appelées à n'être plus rien aux yeux de Dieu. Et nous remarquons aussi que le Seigneur, tout de même, malgré la gravité de la situation de certaines d'entre elles, eh bien, il est miséricordieux, il les attend, il les appelle au repentir. Il y a toujours cette insistance au repentir, à revenir à la foi première. Il y a toujours cette insistance qui parcourt ces lettres. Et parce que finalement, le Seigneur, il cherche à les mettre au bénéfice des promesses qui sont données pour le vainqueur, pour celui qui persévère jusqu'au bout. C'est ça. Il y a aussi cette notion de persévérance jusqu'au bout, quelles que soient les situations, que ce soit le mépris du monde, que ce soit le témoignage qui peut aller jusqu'au martyr de sang, que ce soit la lutte contre les hérésies et les déviations de toutes sortes. Voilà, il y a tout ça, c'est présent dans les lettres, et il y a cette insistance à rester fidèle, à persévérer jusqu'au bout, à combattre les déviances et à s'opposer à toute innovation doctrinale qui est la marque des faux prophètes, à rejeter, à retrancher tout ce qui s'oppose à la doctrine du Christ telle qu'elle est transmise par les saints apôtres du Seigneur. Alors, bon, moi je ne saurais trop vous conseiller de revenir à la lecture de ces lettres, parce que finalement, elles ont une dimension évidemment historique, du temps présent au moment où elles ont été écrites pour celles auxquelles elles sont adressées, mais elles ont aussi une dimension méta-historique, c'est-à-dire que bien des choses qui sont décrites dans ces lettres se retrouvent dans la vie des églises tout au long des générations et même jusqu'à aujourd'hui. Alors j'en viens maintenant à la vision du trône et de l'assis qui est sur le trône. Alors le chapitre 4, puis le chapitre 5, ces deux chapitres dont le Père Serge Bulgakov, j'avais son nom sur le bout de la langue, voilà, c'est le Père Serge Bulgakov qui a écrit un livre dont j'ai parlé la fois précédente, qui a écrit un livre sur l'Apocalypse, un commentaire sur l'Apocalypse, dont le Père Serge Bulgakov dit que ces chapitres 4 et 5 constituent un diptyque dogmatique. Et la remarque est tout à fait justifiée quand on entre dans le texte. Ce sont des visions prophétiques qui sont, comme le disent les éditions de nos Bibles en langue française, qui sont comme les préliminaires du grand jour du Seigneur. Parce que après ces chapitres 4 et 5 vont succéder des chapitres qui concernent l'ouverture des sept sceaux. Alors, on peut dire que ce chapitre 4 correspond à une grandiose vision céleste, puisque c'est rien de moins que la vision du trône de Dieu. Voici comment il commence. « J'eus ensuite une vision. Voici, une porte était ouverte au ciel, et la voix que j'avais naguère entendue me parler comme une trompette me dit, « Monte ici, que je te montre ce qui doit arriver par la suite. » À l'instant, je tombais en extase, voici un trône était dressé dans le ciel, et siégeant sur le trône, quelqu'un. Donc, ce chapitre 4, il est exactement à mettre en regard de la vision inaugurale du Christ en gloire dans le premier chapitre. Et ce chapitre 4, donc, qui s'ouvre sur la vision du trône de Dieu, mais il va s'élargir à la vision des trônes sur lesquels siègent 24 anciens, et s'élargir encore sur la vision des quatre vieillards. Des quatre vivants, des quatre animaux. On utilise plusieurs traductions. Bon, quatre vivants serait, me semble-t-il, la plus exacte. Bon. Et puis, il s'ouvre aussi, cette vision du trône de Dieu, des 24 anciens et des quatre vivants, s'ouvre aussi sur une véritable liturgie céleste. On nous dit, donc dans le chapitre 4, que l'apôtre est ici dans un transport extatique. Et la voix céleste retentit à nouveau. Bon, donc il est transporté, d'une certaine manière, dans un autre plan de réalité, qu'il ne peut percevoir que dans un autre état de conscience, bien sûr. Alors, ce chapitre, on peut remarquer différents temps qui lui sont propres. Pour y voir clair dans le texte, parce qu'en fait, c'est une seule vision qui s'élargit, mais c'est toujours une seule vision, c'est pas quelque chose qui serait connoté par des successions dans le temps. Bon, d'abord, il y a l'introduction à la nouvelle vision. Chapitre 4, verset 1. Le ciel s'ouvre, et la voix qui est déjà connue, il nous est dit qu'elle se fait entendre semblablement à une trompette. Donc, on a déjà une indication là. Ça veut dire que si cette voix se fait entendre de cette manière-là, c'est que quelque chose d'important va suivre. Et que celui qui est au bénéfice de cette vision, il sera dans l'impossibilité de s'y soustraire. Anaba Oudé, monte ici. C'est impératif. Une porte était ouverte au ciel, et la voix que j'avais naguère entendue me parler, comme une trompette, me dit « Monte ici, que je te monte. » Donc, en deuxième point, on peut dire que c'est le saisissement par l'esprit, la vision du trône, signe du pouvoir et de la souveraineté de celui qui est assis et des anciens qui sont autour de lui, les 24 trônes qui sont autour de lui. C'est en 4.2, verset 6a. Le troisième point, c'est la vision des quatre vivants et leur prière incessante. Chapitre 4, verset 6b à 8. Et le quatrième point, c'est l'action de grâce des 24 anciens unis aux quatre vivants, la liturgie céleste. Chapitre 4, verset 9 à 11. Alors l'introduction, elle commence comment ? Elle commence par ces mots « Après cela, je vis ». Cette formule donc introductive, elle est là pour justement souligner la solennité, l'importance de la nouvelle vision, et ça va être renforcé par la voix qui est semblable à une trompette. Et cette vision, elle est vraiment évidemment solennelle, puisqu'il ne s'agit rien de moins d'être mis en présence du trône divin. Il est dit une porte. Une porte était ouverte au ciel. Et les cieux s'ouvrent. Et nous avons déjà rencontré la mention de la porte dans la lettre à l'église de Philadelphie, au début de la lettre de l'église à Philadelphie. « Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, était-il dit. Porte ouverte par celui qui possède la clé de David, donc celui qui est le saint, le véritable, ce qui signifie que le possesseur de cette clé, bien, il a reçu la souveraineté, et puisqu'il a reçu la souveraineté, eh bien, son jugement, il est sans appel, tout simplement. Ici, c'est la porte du ciel qui s'ouvre avec ce commandement de monter. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit. Bon, j'ai dit qu'il ne pouvait en être autrement, parce que le visionnaire ne pouvait avoir la vision du trône divin, le contempler dans l'état de conscience commun des mortels. Il lui fallait être saisi au sens le plus fort du terme, par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, car c'est de lui dont il s'agit dans notre verset. Et voici, un trône se dressait dans le ciel, et siégeant sur le trône, quelqu'un. Nos Bibles en langue française traduisent majoritairement par « quelqu'un », mais le texte grec emploie le substantif « kathémenos », c'est « et siégeant sur le trône, un assis », A2SIS. Et qui est donc cet assis qui n'est pas nommé? Eh bien, ou plus exactement, celui qui se donne à voir au travers d'un chatoiement de couleurs très pures. Le jaspe et la coralline. Bon, des pierres très pures, très transparentes, qui forment un mélange de plusieurs couleurs, de rouge, d'orangé, de vert, de jaune, auxquelles, donc, dans la vision, il faut ajouter l'aura qui entoure le trône divin. Donc, certaines Bibles parlent de la gloire à ce moment-là. En tout cas, c'est une aura de lumière qui souligne l'absolue sainteté et la transcendance de celui qui est l'assis, qui n'est évidemment pas nommé, qui n'est même pas vu. Il est, on perçoit sa présence au travers de ce chatoiement de couleurs. Et d'ailleurs, le terme grec « iris » qui est employé dans le texte grec peut être traduit soit par « arc-en-ciel », mais aussi par « aura »,« halo », un halo de lumière qui entoure le trône divin et qui est le signe de cette absolue sainteté. Alors, vous aurez remarqué comme moi qu'en lisant le texte, on est en présence d'un langage théophanique. Hein ? Au baptême du Jourdain, eh bien, les cieux étaient ouverts. En Marc 1, 10. Et puis, il y avait une communication entre ciel et terre. Et ici, le visionnaire de Patmos ne voit pas la scie. Il est mis en sa présence, ce qui n'est pas la même chose. Il ne voit pas. On ne peut pas voir Dieu face à face et vivre en tant que créature. Bon. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, il est dit que nul n'a jamais vu Dieu. Hein, au verset 18. Donc, c'est bien le trois fois saint de la vision d'Isaïe qui est là sur le trône, l'assis sur le trône, et qui manifeste sa présence au travers de cette aura de lumière et de ce chatoiement de couleurs très pures. Et c'est au travers de cela que Jean est mis en sa présence. L'auteur que j'avais cité, l'un des auteurs que j'avais cité la dernière fois, Philippe Plaid, pour son commentaire, nous dit ceci. J'espère avoir la bonne citation, parce que c'est fragmentaire ce que j'ai, mais il dit les choses de la manière suivante, ça me paraît très intéressant, sa remarque. La vision d'ensemble est de toute façon indescriptible. Cette lumière divine n'est pas uniforme, elle n'est pas non plus divisée ou divisible. L'image des couleurs dépasse toutes les formes et toutes les représentations possibles. Ce tableau constitué de couleurs multiples et unies sans confusion traduit la transcendance absolue de la nature divine. Voilà, fin de citation. Il fait remarquer, il associe Il associe à cette remarque qu'il fait à propos de cette vision du quatrième chapitre une citation du traité des noms divins de Denis l'Aréopagite, que je vais citer à mon tour. « Mais la manière de connaître Dieu, qui est la plus digne de lui, c'est de le connaître par mode d'inconnaissance. Dans une union qui dépasse toute intelligence, lorsque l'intelligence elle-même s'unit aux rayons plus lumineux que la lumière même, et grâce à ces rayons resplendit là-haut, dans l'insondable profondeur de la sagesse. » Donc, celui qui est assis sur le trône et qui manifeste sa présence au travers de tout ce qui est décrit dans la vision qu'en a le visionnaire de Patmos, eh bien, c'est celui que nul ne peut voir sans mourir et que nous ne connaissons par conséquent qu'en ce qu'il nous révèle de lui-même. Mais son essence est absolument impénétrable à jamais. Et c'est l'unique engendré, comme nous dit la fin du prologue de Jean, c'est l'unique engendré qui est dans le sein du Père, qui, lui, nous l'a fait connaître. Alors, il faut tout de suite remarquer que cette vision, elle a une parenté avec celle du prophète Ézéchiel. Vous savez que il y a des va-et-vient entre la prophétie de l'Ancien Testament, la grande prophétie eschatologique de l'Ancien Testament, et la prophétie de l'Apocalypse, puisque l'Apocalypse est un livre prophétique. Bon, il y a des différences quand même entre les visions. Ce n'est pas une reprise de la vision d'Ézéchiel, mais il y a des résonances entre cette vision du chapitre 4 et celle d'Ézéchiel. Je vais citer par exemple un fragment d'Ézéchiel. « Et par-dessus le firmament qui était sur leur tête, ou au-dessus de leur tête, telle une pierre de lazulite, il y avait la ressemblance d'un trône. » Ça, c'est des versets qu'on trouve dans Ézéchiel 1, 26-28. « Et au-dessus de cette ressemblance de trône, c'était la ressemblance comme l'aspect d'un homme au-dessus tout en haut. Puis je vis comme l'étincellement de vermeil, comme l'aspect d'un feu qui l'enveloppait tout autour, à partir et au-dessus de ce qui semblait être ses reins. Je vis comme l'aspect d'un feu et d'une clarté tout autour de lui. C'était comme l'aspect de l'arc qui est dans la nuée, un jour de pluie. Tel était l'aspect de la clarté environnante. C'était l'aspect, la ressemblance de la gloire du Seigneur. » Et si on se transporte également dans la vision d'Ésaïe, telle qu'elle est décrite au chapitre 6, à partir du verset 1, eh bien, le prophète voit le Seigneur qui siège sur un trône élevé, sa traîne qui emplit le temple, et lequel Seigneur est entouré des séraphins qui chantent le Trisagion. Et le prophète Daniel a lui aussi une vision similaire. Je cite Daniel 7:9. « Je regardais lorsque des trônes furent installés et un vieillard, le texte au sens littéral, c'est « un vieux avancé en jour ». Et un vieillard s'assit, son vêtement était blanc comme de la neige, la chevelure de sa tête comme de la laine nettoyée, un trône était en flamme de un trône était en flamme de feu, avec des roues en feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. » Donc c'est Daniel 7:9. Alors, après ces, ces résonances avec la prophétie, les prophéties de Daniel et d'Ézéchiel. On voit, là je reviens au chapitre 4, la vision du trône divin va s'élargir par deux fois dans notre chapitre, avec les 24 trônes des anciens et avec la vision des quatre vivants. Ils sont vêtus de blanc, ces 24 anciens, ce qui semble souligner leur dignité sacerdotale. Donc, je disais que ils sont vêtus de blanc, ce qui souligne leur dignité sacerdotale. Mais ici, c'est le terme grec de presbytéros qui est utilisé. Donc, d'anciens. Je vous rappelle que les anciens, c'était l'une des trois composantes du grand Sanhédrin de Jérusalem. Il y avait les grands prêtres, les scribes, et puis les anciens. Alors, ces 24 anciens, qui sont-ils ? En fait, il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été faites sur le chiffre des 24 anciens, dont les trônes entourent le trône divin. On a parlé des 12 tribus d'Israël, plus les 12 apôtres du Christ. Est-ce que ces 24 anciens représentent des anges des armées célestes, ou est-ce que ce sont des saints glorifiés? On a parlé en référence au premier livre Paralipomène, au premier livre des Chroniques, au chapitre 24, on a parlé des 24 castes sacerdotales. En fait, on ne sait pas très bien, et vous savez, quand on lit l'Apocalypse et qu'on réfléchit sur ce texte, il faut être très prudent parce que le visionnaire de Patmos a écrit tout cela pour nous faire partager, pour nous introduire dans tout ce qui est décrit dans le livre, mais ce livre est entouré de beaucoup de mystères, il ne faut pas chercher à tout expliquer, parce que ça reviendrait à accomplir une démarche finalement assez fausse. Il y a beaucoup de questions qui se posent, et il y a aussi beaucoup d'interprétations, mais on ne peut pas avoir des certitudes sur tout, et notamment qui sont ces 24 anciens. Mais néanmoins, il y a quand même des indications. Dans la suite du texte, il y a des indications sur qui peuvent-ils être. Bon, ils sont vêtus de blanc, comme je l'ai dit, donc ça laisse à penser au sacerdoce. Sur leur tête, il est dit, il y a des couronnes d'or. Mais il faut remarquer, en suivant le texte grec, que ce n'est pas la couronne des souverains, diadéma. C'est celle des vainqueurs, Stéphanus. C'est la couronne des vainqueurs. Et cela nous renvoie à 1 Corinthiens 9, qui parle, en utilisant, saint Paul est familier de cela, avec la métaphore du coureur au stade, Paul parle de la promesse de la couronne impérissable. Stéphanon aftarton. Et saint Jacques parle de la couronne qui est donnée en récompense de la victoire sur l'épreuve. 1 Jacques 1,12. Comme également la deuxième épître de saint Paul à Timothée parle de la couronne de justice pour prix de quoi ? Pour prix du bon combat de la foi. Donc les 24 anciens, les presbytéros, qu'est-ce qu'ils font ? Il nous est dit, au verset 10, les 24 anciens se prosternaient devant celui qui siège sur le trône. Ils adoraient le vivant pour les siècles des siècles. Ils adorent donc le Dieu créateur, celui qui, par sa parole toute puissance, a tout amené du néant à l'être, comme le disent nos textes liturgiques. Et puis, nous les voyons dans la posture de ceux qui adorent, ils se prosternent. Et ils feront la même chose au chapitre 5, parce qu'au chapitre 5, il y a non seulement le trône divin, mais il y a l'agneau triomphant également qui est présent. Et donc, ces 24 anciens se prosterneront aussi devant l'agneau, celui qui, par son sang, a apporté le salut, celui qui nous a sauvés par son oblation d'amour. Et d'ailleurs, comme il est dit dans ce chapitre 5, tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté par ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. On reviendra sur ce qui est dit au chapitre 5. Là, on remarque quoi ? On remarque qu'ils célèbrent, avec les 24 vieillards, le pouvoir rédempteur, salvateur de Dieu, et il est très clairement fait référence au sacrifice de l'agneau, dans le chapitre 5. Donc, en mettant ces éléments bout à bout, il semble plus vraisemblable que ces 24 anciens, ce soient des hommes plutôt que des anges. Bien que remarque un commentateur allemand, d'après le texte grec, on ne peut pas en avoir une certitude absolue. Mais il faut aussi se rappeler que le Christ, par sa mort vivifiante et sa glorieuse résurrection, c'est les hommes qu'il est venu sauver. C'est les hommes qu'il a rachetés par sa mort vivifiante. Alors, si on continue dans la vision, il est fait référence à des éclairs, à la voix, au tonnerre qui viennent du trône divin. Et à nouveau, on est dans un vocabulaire théophanique. Et ce vocabulaire manifeste, annonce une manifestation théophanique. Et cette manifestation théophanique, à cette manifestation théophanique est toujours liée une révélation divine. Autres éléments de cette vision, les sept lampes ardentes qui brûlent sans cesse devant le trône, ce ne sont pas les sept chandeliers de la vision inaugurale, qu'on trouve en 1, 12, 20, mais c'est l'esprit septiforme, l'esprit qui se manifeste dans sa plénitude, dans la plénitude de ses dons. Mais il y a un certain commentateur qui voit les anges de la face qui sont envoyés par Dieu, comme en Zacharie 4, 10. Tout ça est ouvert au niveau de l'interprétation. Et puis, avant que la vision s'élargisse à nouveau, eh bien, il est fait mention d'une mer limpide, semblable à du cristal. Et ces eaux, finalement, limpides, semblables à du cristal, ce sont les eaux d'en haut. Vous savez qu'il y a les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, comme il est dit dans le livre de la Genèse. Et là, on retrouve une résonance avec la vision d'Ézéchiel, en 1:22 et en Genèse 1:7. En Genèse 1:7, il est dit: Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament, et Dieu appela firmament ciel. Et chez Ézéchiel, le firmament qui repose sur la tête des quatre animaux semblable à du cristal. Donc voilà, c'est. Et le texte que j'ai cité tout à l'heure, qui appartient aux intertestamentaires, le testament de Lévi, toujours au chapitre 2, verset 7, mentionne également une étendue d'eau entre le premier et le deuxième ciel. C'est répété aussi le symbole de cette mer de cristal en chapitre 15, verset 2, où il est dit: Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui ont triomphé de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout devant cette mer de cristal. Donc, à propos de ces 24, justement, pourquoi ne pas dire, avec nombre de commentateurs qui l'ont affirmé, mais je pense que c'est assez pertinent, pourquoi ne pas dire que ces 24 sont finalement le symbole des saints glorifiés de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. À partir du verset, donc deuxième élargissement, troisième, et la première vision, c'est le trône divin. La vision s'élargit aux 24 anciens et elle s'élargit à nouveau aux 4 vivants, que d'aucuns appellent les 4 animaux. Et donc, à partir du chapitre 4, verset 6b. Et les 24 vieillards et les 4 vivants, ensemble, ils célèbrent une liturgie céleste. Ils rendent grâce au Créateur, à celui qui a tout amené du néant à l'être par sa parole toute puissante. Et comme ils vont rendre un culte à l'agneau triomphant, donc au Sauveur, tel que cela apparaîtra au chapitre 5. Alors, là aussi, la question se pose à nouveau, qui sont ces vivants ? Et la réponse n'est pas plus aisée que pour les 24 vieillards, en définitive. En Ézéchiel 1, ce sont les kéroubim qui supportent le trône et qui restent silencieux. Ici, comme dans la vision du trône dans Isaïe 6, 3, où les séraphins chantent le trisagion. Les 4 vivants chantent aussi le trisagion, mais dans une version un petit peu différente de celle qu'entonnent les séraphins dans la vision d'Isaïe. Là, c'est le dieu Pantocrator, alors qu'en Isaïe, c'est le dieu Sabaoth, le dieu des armées célestes. Bon, mais c'est toujours le trisagion. Alors, le premier, il est semblable à un lion, le second à un taureau, le troisième à une face humaine, le quatrième est semblable à un aigle en vol. Ça renvoie bien sûr à des qualités, tout cela, l'autorité, la noblesse, la force, la fécondité, l'intelligence, la sagesse, l'agilité, des qualités qui s'attachent aux 4 aux quatre animaux. Et on sait, c'est une image qui nous est familière, puisque saint Irénée voit dans cette description les quatre évangélistes. Et on remarque, plutôt on remarquera parce qu'on n'en est pas encore là, au chapitre 6, eh bien, les quatre vivants sont liés à l'ouverture des quatre premiers sceaux, et ce sont eux qui appelleront les quatre cavaliers. On reviendra plus tard. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, donc on poursuivra sur le chapitre 5, enfin la liturgie, la fin du chapitre 4, la liturgie céleste, et le chapitre 5 où la vision s'élargit encore, et nous entrerons dans tout ce qui suit, c'est-à-dire l'ouverture, les chapitres consacrés à l'ouverture des sept sceaux. Ce sera pour le prochain cours.